Thomas Clair. Comment parler après?
Si vous me volez même mes phrases. Mais c'est évidemment difficile. Après la richesse de ce que nous venons d'entendre, d'enchaîner. Et donc je pointerai juste quelques éléments que votre panorama, le panorama que vous avez constitué, me trouve tout à fait passionnant. Sur la question de la guerre, par exemple, il y a une chose qui me frappe, c'est que, enfin, évidemment, je n'ai pas connu tous ces événements, enfin, je veux dire ceux de la guerre d'Algérie, mais il me semble qu'il y avait déjà un problème linguistique à l'époque, qui est que ce terme de guerre n'était pas employé, mais on lui substituait le terme d'événement. C'est-à-dire qu'on ne nommait pas ce qui était une réalité. Et je pense que ça conviendrait aussi assez bien à la situation que nous vivons aujourd'hui, à savoir aussi, encore une fois, une question de langage, qui est que si on interrogeait les gens dans cette salle, il y a des gens qui pensent que nous sommes en guerre et d'autres que nous ne sommes pas en guerre. Autrement dit, que dans les deux cas, c'est peut-être la qualification des choses, c'est en ce sens proprement barthésien finalement, c'est que la qualification des choses qui va construire la réalité. Que ce soit dans les années 60 ou aujourd'hui, finalement, le même problème, me semble-t-il, se pose sur le fait que c'est le langage qui construit le réel. Deuxième chose qui m'a énormément touché, c'est que par rapport à l'objet de notre débat, à savoir la question du Roland Barthes moraliste, il me semble que vous avez posé les choses de façon magistrale, c'est-à-dire que vous avez bien montré tout de suite le paradoxe fondateur qui est que le moraliste justement est éloigné de la morale. C'est la raison pour laquelle Nietzsche, évidemment, me semble-t-il, avec une grande admiration pour les moralistes français, au sens où les moralistes sont justement des gens qui ne prescrivent pas aux autres ce qu'il faut faire, mais qui seraient dans une sorte de distance, peut-être par rapport aux choses. Car évidemment, l'intitulé Roland Barthes moraliste, jusqu'à votre intervention, finalement, me gênait. Il est représenté par mon camarade et collègue Claude Coste, qui a consacré sa thèse à Barthes moraliste. Claude Coste est l'éditeur des cours, premier cours au Collège de France de Roland Barthes, qui est le Comment vivre ensemble. Et je suis toujours un petit peu opposé à cette notion de Roland Barthes moraliste, en tant que le terme moraliste, jusqu'à ce que vous l'éclairiez d'une façon évidemment très, très forte, ce terme de moraliste me gêne un peu dans la mesure où il y a peut-être quelque chose qui fait que je ne peux pas complètement souscrire à ce terme, c'est que, premièrement, vous avez bien fait de le définir comme un éloignement, on pourrait dire, de la morale, mais je ne pense pas que la doxa, finalement, retienne cela de moraliste. Alors, c'est un problème, je dirais, peut-être un peu trivial, mais finalement, ce que les gens entendent par moraliste, ce n'est pas ce que vous avez défini. Ce qui pose quand même un petit problème, c'est que dans moraliste, les gens retiennent toujours la notion de morale, malgré tout. Deuxième chose, il me semble que la position du moraliste, alors là je ne sais pas, mais implique une forme de distance, et il me semble que là peut-être qu'il ne conviendrait pas tout à fait à la pensée de Barthes, en tant que je vois Barthes comme quelqu'un qui, il le dit lui-même dans le cours sur le neutre, dont je suis l'éditeur, Barthes a toujours cherché quand même une sorte de participation aux luttes de son temps. La citation est à peu près exacte ou à peu près inexacte, je ne me souviens plus exactement, mais quand il parle du neutre, il dit au fond, c'est une façon pour moi de participer aux luttes de mon temps, comme il a participé aux luttes de son temps à l'époque des mythologies, à l'époque du structuralisme, etc. etc. Et je me demandais si la position de moraliste n'impliquait peut-être pas une forme de distance, voire de surplomb, qu'on trouve quand même un petit peu dans la rhétorique de La Rochefoucauld ou de La Bruyère, qui est un petit peu le côté aristocratique, le côté une sorte d'être un petit peu au-dessus des hommes, et sinon de prescrire, en tout cas du moins d'analyser les faits et les phénomènes humains comme relevant d'un autre univers. C'est quand même une position de surplomb qui, à mon avis, n'est pas du tout celle de Barthes, en tant que, dans les mythologies, par exemple, il y a la volonté Non pas tellement d'avoir une position de surplomb qui consisterait... Enfin, on peut l'analyser comme ça, on peut l'analyser comme une position de démystification, donc c'est ce que lui reproche Jacques Rancière, en gros. Hein. Jacques Rancière dit, Barthes, finalement, reprend la position du critique de gauche, c'est-à-dire celui qui se fait l'éducateur du peuple. En gros, et Rancière dit, c'est un échec, car on ne peut pas être éducateur... Enfin, tous les éducateurs du peuple ont échoué. Barthes a échoué, Baudrillard a échoué, Debord a échoué, Brecht a échoué, ils ont tous échoué. Bon. Or, il me semble que cette position, finalement, n'est pas tellement celle de Barthes, pas nécessairement celle de Barthes. Je veux dire par là le moraliste qui analyserait les choses, le démystificateur, l'éducateur du peuple. Il me semble qu'il y a chez lui, peut-être au contraire, une certaine volonté de participer aux luttes de son temps, mais en y participant effectivement d'une façon singulière, qui serait de prendre cette lutte par le langage, c'est-à-dire par une sorte de par le langage en tant que le langage fonde une communauté malgré tout entre les hommes. Mais enfin bon, là c'est un débat qui me semble appelé par ce terme problématique de que je continue à trouver un peu problématique de moraliste en ce que, et je terminerai là-dessus, pour que en ce que le terme de moraliste a peut-être tendance à écraser un petit peu la question finalement proprement politique que pose Barthes. Et s'il y a bien aujourd'hui un consensus qui me semble quelque peu problématique, c'est le consensus qui règne sur le dernier Barthes, à savoir de faire justement, et notamment le Barthes de la Chambre claire, qui consisterait peut-être à en faire, de manière peut-être un peu trop univoque, un métaphysicien, au sens où il me semble que la réception que l'on fait aujourd'hui de la Chambre claire va peut-être trop dans un sens qui serait celui de la mélancolie, celui d'un certain platonisme, ce que vous démontrez magistralement dans le pas philosophique, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier non plus que la Chambre claire est divisée en deux parties et qu'on a trop tendance peut-être à occulter la première partie au détriment de la seconde, enfin, faire comme si la première partie était subordonnée à la seconde. Or, la première partie, je crois qu'il faut maintenir cette idée que dans la première partie, Barthes nous propose une méthode d'analyse des images, c'est-à-dire la méthode d'analyse studium punctum. Autrement dit, que le Barthes de la Chambre claire n'est pas aussi éloigné qu'on veut bien le croire, et qu'on le dit de manière un petit peu trop systématique, à mon avis, du Barthes des années 60, au sens où Barthes nous donne une méthode d'analyse des images qui est fondamentalement pédagogique, donc, à mon sens, politique, en ce sens où ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des gens qui arrivent à décrypter les images. C'est-à-dire qui arrivent justement à penser l'image en termes analytiques, en termes éventuellement dialectiques, et afin justement de, je ne sais pas moi, par exemple, penser le selfie, non pas comme je l'ai entendu dans un colloque récent au Collège de France, comme le simple symptôme d'une bêtise humaine, mais tout simplement comme une forme d'image qui pose des problèmes spécifiques et qui n'est pas du tout analysée, et donc dont il faudrait faire l'analyse en termes barthésiens. Je m'y suis amusé sur des objets contemporains, comme la canne à selfie, par exemple. Pourquoi finalement, je crois qu'il faut maintenir le barthésianisme, si je puis dire, dans le fait de ne pas essentialiser une forme, mais de montrer que cette forme, ce genre, finalement, d'image, est entièrement pensable. Et donc, on peut en faire un usage tout à fait spécifique. Et que, en tout cas, on ne peut pas discréditer, finalement, on ne peut pas discréditer ce type nouveau d'image, ce régime nouveau d'image, au nom d'une position qui serait peut-être justement celle d'un certain moralisme, mais alors envisagé dans un sens qui n'est pas celui que vous avez posé, mais l'idée finalement que Barthes aurait une sorte de méfiance fondamentale vis-à-vis de cela. Voilà, enfin bon, je clôt là-dessus hein, de façon peut-être un peu confuse parce qu'il est assez difficile évidemment de m'appuyer en direct sur la richesse de vos analyses, mais j'essaye voilà, de pointer deux ou trois choses.
Je vais, juste avant que nous donnions la parole à la salle, je voudrais juste rebondir sur les éventuels. Alors, sur le moralisme, nous ne reviendrons pas. Je suis à la fois d'accord avec votre soupçon, en tout cas.
soupçon, c'est bienveillant.
Voilà. Et en même temps, c'est un terme qu'il est difficile de remplacer. Dans le cas, qu'est-ce qu'on dira de La Rochefoucauld si on ne dit pas que c'est un moraliste ? C'est compliqué. Mais bon, j'entends votre réserve. Et c'est vrai que je ne suis pas convaincu que La Bruyère, que La Rochefoucauld et La Bruyère soient suffisamment présents dans la doxa pour qu'ils corrigent l'éventuelle dérive moralisatrice du mot moraliste. Donc j'entends la chose. Mais effectivement, vous avez cité le livre de votre collègue que j'ai lu et qui effectivement tire Roland Barthes du côté de quelqu'un qui construirait éventuellement les éléments d'une éthique ou voilà. Ce qui est effectivement n'est pas ma position, n'est pas ce que j'entends. La deuxième remarque que je ferai, c'est que entre les moralistes que j'évoquais, les moralistes du 7e siècle et Roland Barthes, il y a une immense différence. C'est que aussi bien La Rochefoucauld que La Bruyère, qui ne sont pas des moralisateurs, ce qui leur permet, à leurs propres yeux peut-être, de ne pas être des moralisateurs, c'est qu'ils croient en Dieu. La Rochefoucauld est un chrétien convaincu, vraisemblablement janséniste, enfin bon, un chrétien convaincu, et l'ensemble des caractères de La Bruyère est fait pour mener à Dieu. Et d'un certain point de vue, ce qui fait que les caractères sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire en fait des figures de la servitude humaine, le caractère est un esclave de lui-même, si c'est une servitude de lui-même, c'est parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il ne tourne pas son regard vers Dieu. S'il tournait son regard vers Dieu, il ne serait pas amoureux de son caractère. Puisqu'en vérité, c'est ça le secret des caractères de La Bruyère. C'est que chaque caractère est amoureux de son caractère. Le distrait, qui un long portrait, trop long à mon avis, mais ça c'est mon jugement personnel, et ce distrait est amoureux de sa distraction. Bien entendu, l'amateur de tulipes est amoureux non pas des tulipes, il est amoureux de son amour des tulipes. Et un commentateur a fait remarquer que l'amateur de tulipes est exactement le symbole de la conduite humaine telle qu'elle ne doit pas être au lieu de La Bruyère, puisque c'est celui qui a les yeux fixés sur la terre et sur les fleurs et qui ne pense pas à celui qui fait que ces fleurs soient belles, à savoir Dieu. Or, Roland Barthes n'a pas de Dieu. Et ça va de pair avec le platonisme que je lui prête, qui est un platonisme totalement interne à la caverne. Autrement dit, ce n'est pas un platonisme métaphysique, c'est un platonisme physique. Il est comme les prisonniers de la caverne qui voient devant leurs yeux défiler des images et qui peuvent reconnaître des points de ressemblance et des points de différence. J'ai cité le texte de Platon, parce qu'il est très frappant. Ce sont des techniques du structuralisme, c'est-à-dire opposition, différence, des traits en vérité. Et toute la période sémiologique est à certains égards une période stérile du point de vue de Barthes, je veux dire, qui aboutit à quelque chose qui a ses propres yeux. Dont il doit sortir, et il va en sortir par l'empire des signes, où il va découvrir qu'en fait la force des signes, c'est qu'ils sont vides. La vertu, malgré tout, de ce premier mouvement qui était le sien d'aller vers la sémiologie, c'était de retrouver les procédures des prisonniers De la caverne. Et jusqu'à la fin de son œuvre, il reste un prisonnier de la caverne. Et néanmoins, et c'est aussi, bon, je ne le ferai pas ici, on n'a pas le temps, c'est aussi, à mon avis, la très profonde critique qu'il adresse à Benjamin, qu'il cite très peu, alors que Benjamin a travaillé sur la photographie, a écrit une brève histoire de la photographie, qui est un livre important. Barthes accorde plus d'importance à Gisèle Freund, alors que c'est... Bon, peu importe. Mais je crois que la très profonde critique qu'il adresse à Benjamin, c'est que Benjamin croit qu'on peut sortir de la caverne. Pas par les voies platoniciennes, mais par... Par l'espérance révolutionnaire, par le messianisme révolutionnaire. Or, je suis d'accord avec vous pour dire que Roland Barthes ne se veut pas désimpliquer des luttes de son temps, mais il n'est pas messianique. Et ce qu'il reprocherait, qu'il aurait reproché, il a vu avec tristesse un certain nombre de gens comme moi, par exemple, de devenir des militants, des militants maoïstes, ça lui paraissait déplacé. Et il n'a pas du tout aimé mai 68. Il l'a dit à François Valle, mais des étudiants de Metz se battent pour le retour de ce contre quoi nous nous sommes battus toute notre vie. Parce que c'était le retour de la démystification. Bon, je dis en passant que je pense la critique de Rancière absolument non fondée concernant Roland Barthes. Il y a un moment de démystification, c'est vrai, dans les mythologies, c'est tout à fait vrai, mais ça n'est pas le dernier mot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si ça s'arrêtait là. Et dès que Barthes a eu le sentiment qu'on pouvait tirer des mythologies une forme d'éducation populaire, il est passé à autre chose, c'est-à-dire en fait à la sémiologie. La sémiologie, la critique qu'on lui a faite, et c'est vrai qu'on peut la lui faire, c'est qu'elle n'est pas faite pour éduquer le peuple. Ça n'apprend rien au peuple. Et malheureusement, on l'a utilisé comme une procédure pédagogique, ce qui a fait apparaître, comme toujours, quand on se sert de quelque chose pour ce à quoi ça ne doit pas servir, c'est catastrophique. Donc j'arrêterai là mon rebond, mais sur beaucoup de points, je pense que je vous rejoins, à condition qu'on ajoute cette dimension entièrement, ce que j'appelle cavernicole. Il n'y a pas de soleil du bien à l'extérieur de la caverne.
Tout à fait. Oui. Mais c'est peut-être là aussi qu'il y a une véritable modernité de Barthes, pour moi, au fond, en ce sens que, pour les gens de ma génération en tout cas, cette notion de messianisme était vraiment est perçue comme l'ennemi, pour moi. Tout messianisme... Je ne comprends même pas de. Enfin, je veux dire que. Je comprends qu'on. Du mal à comprendre cette notion de messianisme. Enfin, je la comprends intellectuellement, évidemment, mais il me semble que Barthes, justement, de ce point de vue-là, qui est.
Ben, je pense qu'il aurait accepté un messianisme religieux, mais pas le messianisme politique.
Oui.
C'est une formation protestante.
Messianisme religieux, certes, mais. Bon, il me semble quand même que c'est quand même quelqu'un.
Non, je plaisante.
C'est quelqu'un qui propose des méthodes quand même.
Oui. Non, mais je plaisante. Il n'est pas religieux du tout. Non. Mais je pense qu'il aurait eu plus de respect pour un messianisme religieux. Enfin,
oui,
il me semble.
Sans doute. Mais la notion de respect est déjà aussi une notion problématique, me semble-t-il.
D'accord. Je ne peux pas vous.
Voilà. Oui. Non, tout simplement, c'est parce qu'il existe tout un discours, à mon avis, infondé, qui serait celui de l'anti-modernité de Barthes, et qui tire en partie sa source d'une sorte de trahison de Barthes, le second Barthes trahissant le premier. Je ne crois pas tellement à cette idée. Dans la mesure où, jusqu'à la fin, il propose non seulement des méthodes, comme celle de la chambre claire, mais aussi dans ses cours, sur le neutre notamment, il réinvente quand même à chaque fois, jusqu'au bout, il réinvente... Le neutre est un concept, une sorte de concept. Bon. Il arrive quand même à être inventif jusqu'au bout, puisque le neutre date de 77-78. En termes esthétiques, la préparation du roman n'est pas du tout quelque chose qui est, à mon avis, lié à une déception par rapport à l'idée du roman, mais il comprend très intelligemment que le roman n'est peut-être plus la forme adaptée à la modernité. Et que donc, il y a peut-être justement une dimension conceptuelle de la littérature qui consisterait un peu à la Borges à dire finalement que le roman est peut-être moins intéressant, enfin, la réalisation romanesque est sans doute moins intéressante que l'idée qui préexiste en quelque sorte à l'œuvre, un peu à la Paul Valéry. Il y a toute une lignée, au fond il reprend toute une lignée esthétique finalement assez peu aimée en France, qui est justement l'idée non fictionnaliste de la littérature, c'est-à-dire la lignée Paul Valéry, les avant-gardes, l'art conceptuel dans les années 60, etc. Hein, c'est la grande idée de Marcel Duchamp, au fond, que l'œuvre est peut-être moins importante que ce que Stendhal appelait les pilotis, c'est-à-dire l'idée même. Et la préparation du roman est un texte extraordinaire de ce point de vue, où il vous raconte que finalement, c'est en fait le roman de la préparation, me semble-t-il. C'est-à-dire la magnifique, c'est de la littérature, mais au second degré, au sens où il vous explique de manière magistrale comment il n'est pas besoin d'écrire un roman, mais de réfléchir aux conditions pour lesquelles il n'est pas besoin de l'écrire. Ce qui me semble être absolument sublime esthétiquement. Donc jusqu'au bout, je pense que Barthes, contrairement à ce qui a tendance un peu à se dire aujourd'hui, il invente des choses, il invente des concepts, il invente des choses pour, voilà, pour rénover la pensée.
C'est peut-être le moment de donner la parole à la salle qui a des questions à poser.
Je voudrais vous interroger sur la tonalité affective comparée des textes des moralistes et des textes de Barthes. Parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de cruauté dans le travail des textes des moralistes, une sorte de sérieux en même temps qui se trouve associé à la cruauté, alors que la tonalité affective qu'on repère chez Barthes, c'est une espèce, j'ai jamais l'impression qu'il appuie. Et j'ai jamais non plus l'impression qu'il peut y avoir une espèce de violence qu'on trouve parfois chez les moralistes, qui est une sorte de tendresse, n'appuyez surtout pas. Et puis, ça me semble tellement articulé avec le fait qu'il ne voulait surtout pas être emprisonné dans un sens qui fixerait définitivement quelque chose, qu'il s'échappe d'une certaine manière. Ce qui fait que, même s'il est moraliste, il a une espèce de légèreté dans le travail du moralisme. Du moins, c'est pour autant que je me souvienne de mes lectures à la fois de Barthes et des moralistes.
Il me semble qu'un élément de réponse est contenu dans ce que j'ai dit précédemment. Ce que vous percevez comme cruauté chez La Bruyère, je ne pense pas que le mot cruauté s'applique vraiment, mais une sévérité. Une sévérité narquoise, disons. Une dimension de sourire en coin, mais qui est fondée sur une sévérité. Je peux l'apercevoir de la cruauté chez La Rochefoucauld. Mais je pense que précisément la différence est la question de cet au-delà qui est Dieu. Il y a un au-delà de l'être humain. Il y a un au-delà. J'emploie être humain au sens le plus banal. Il y a un au-delà de l'animal parlant, si vous voulez. Tandis que chez Barthes, il n'y a pas d'au-delà de l'animal parlant. Donc, il est absolument égal à ceux dont il saisit par un biais, parfois indirect, les conduites. Et de ce point de vue-là, la raison pour laquelle il s'est passionné pour la linguistique, une passion qui ne l'a pas conduit à la pratiquer, et pour cause, si vous êtes passionné par la linguistique, vous ne pouvez pas vraiment la pratiquer. La passion fait obstacle. Mais qu'est-ce qui retient Barthes dans la linguistique, dans des textes qui sont malgré tout, prenez le texte de Saussure, le cours de linguistique générale, si on le lit comme ça, ça a l'air d'une platitude extrême. C'est vraiment l'indistinction du génie et de la platitude. C'est un texte absolument génial, mais où le génie ressemble à s'y méprendre, aux réflexions de M. Prudhomme. Mais ça, c'est lié à la linguistique, parce que la linguistique est une discipline telle qu'il ne peut pas y avoir ni d'en-ça, ni d'au-delà. Parce que vous ne pouvez pas aller rendre ça de la langue de manière générale. Et donc, quand vous étudiez la langue, vous étudiez ce en dessous de quoi vous ne pouvez pas descendre. Mais vous ne pouvez pas non plus aller au-delà, parce que, à moins de croire en un Dieu ineffable, ce qui est justement ce à quoi ne croit pas Roland Barthes, il n'y a pas d'au-delà de la langue, puisqu'il n'y a pas d'ineffable. Et je pense que ça l'a passionné, qu'on puisse... qu'il y ait des gens qui puissent, des sujets qui puissent se consacrer à cela. Parce que si la linguistique existe, alors ça veut dire que lui, Roland Barthes, en prenant la linguistique comme science pilote, le terme revient souvent à ce moment-là sous sa plume, ça veut dire je conduirai ma barque en ayant la pleine conscience que je suis, en tant qu'être parlant, strictement égal à tous les autres êtres parlants. Je ne suis rien de plus et rien de moins qu'un être parlant. Et ce que je veux faire dans cette navigation qu'est la sémiologie, c'est tenir ma barque en n'ayant que cette boussole-là entre les mains. Donc, une égalité, et peut-être une liberté et une fraternité, si vous voulez, ce ne serait pas totalement déplacé de le dire, une égalité qui empêche précisément les conduites de cruauté. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a jamais de cruauté ni de mépris chez Barthes. Quelques textes, en mythologie, qui effectivement est le livre où on pourrait penser que la narquoiserie, parfois, pourrait aller vers la moquerie, il s'arrête pratiquement toujours à temps. Et après, puisque, si j'ose dire, de grands événements après les mythologies, ce qui va lui permettre d'avancer, c'est la découverte du cygne. Et ça, c'est, si vous voulez, la question qui se pose, si on était comme... ce que vous citez, qui considère que Roland Barthes est toujours en peine de continuer, ben, on aurait pu dire, bon, après mythologie, il n'y a plus rien à écrire. Après, sinon continuer, sinon faire des chroniques indéfiniment. Et ce qui a permis à Roland Barthes de continuer, c'est justement cette découverte qui a été pour lui une découverte extraordinaire, qui est la découverte que si on prend par le biais de la langue, eh bien, nous prenons par ce qui fait que chaque être parlant est l'égal des autres êtres parlants.
Autre question ?
Il y a quand même une chose que je trouve très juste dans cette question que vous avez posée, c'est que vous avez abordé la chose par la question justement stylistique. À savoir que encore une fois ce terme de moraliste gêne précisément parce qu'il y a quand même une sorte de violence froide enfin, chez La Rochefoucauld, mmh. Me semble absolument évident, et que Barthes a quelques difficultés évidemment avec la question de la violence, ce qui d'ailleurs peut être gênant dans sa conception de la littérature, en ce sens qu'il y a toute une partie de la littérature qui lui échappe complètement, à laquelle il ne peut accéder, qui est la question des avant-gardes. Il n'aime pas tellement les avant-gardes. Il n'aime pas des écrivains violents comme Céline, par exemple. Il a toute une... Sa sensibilité est limitée par ce rapport négatif à la violence qui, évidemment, du coup, coïncide assez mal effectivement, avec la notion d'un aristocratisme, si on admet que si on admet qu'il y a une violence dans l'aristocratisme, ce qui me semble évident.
Et une valorisation de la douceur chez lui.
Oui, sauf, et là, je voulais juste intervenir, il y a quand même une période, qui est la période des mythologies, Jean-Claude Milner a raison, dans laquelle il y a ce que j'appellerais un goût pour la polémique chez Barthes, qui est aussi également est sous-estimé aujourd'hui. Quand on relit les mythologies, il y a quand même, c'est un peu sa période dogmatique, on pourrait peut-être faire une réhabilitation du dogmatisme en tout cas, en ce sens que le dogmatisme a un avantage stylistique, c'est qu'il y a aussi un bonheur de l'expression, une agressivité féconde, me semble-t-il, contre la pensée petite bourgeoise. Et de ce point de vue-là, on a trop tendance aussi à figer Barthes dans une image de douceur, alors qu'il y a une période historique qui est la sienne, vraiment celle des années 50, celle des mythologies, dans laquelle il essaye de fonder une contre-tradition, puisque dans la littérature française, la tradition polémiste est évidemment à droite. Globalement, les polémistes sont de droite. Ça n'a pas changé, d'ailleurs, quand vous regardez l'actualité la plus précise. Mais il me semble que dans les mythologies, il cherche à produire un paradoxe, entre autres, enfin pas seulement, c'est pas le but ultime des mythologies, mais il cherche aussi littérairement à maintenir, à produire une contre-tradiction qui serait le caractère finalement assez d'un polémisme de gauche qui manque cruellement, selon moi, dans notre pays. Voilà. C'est-à-dire en maintenant justement cette dimension assez violente hein, quand il attaque l'abbé Pierre, quand il attaque la littérature selon Minoud Rouet, il y a toute cette dimension qui est systématiquement occultée aujourd'hui par les lecteurs de Barthes, dont mon cher collègue Claude Coste, qui fait de lui effectivement
pauvre.
Vous
l'adorez.
Je l'aime beaucoup. Nous avons cette opposition au sens où nous n'avons pas du tout la même vision de Barthes, mais on ne peut pas faire de Barthes un juste milieu.
Historiquement, c'est trop dire. Mais du point de vue anecdotique, la figure de Barthes avant la sémiologie, si j'ose dire, la figure de Barthes marquée donc par le degré zéro de l'écriture et par les mythologies, est une figure de pamphlétaire violent. Quelqu'un comme Mauriac, par exemple. J'entendais à la radio avec une voix inimitable et toujours drôle en même temps disant les critiques d'autrefois je les trouvais très bien, je les aimais bien sans doute parce que eux aimaient bien ce que j'écrivais. Les critiques d'aujourd'hui, c'est vraiment des gens très savants, Monsieur Blanchot, Monsieur Barthes, et moi, je me rappelle sa formule, je me fais l'effet du vieil élève assis au fond de la classe et que le professeur Barthes n'interroge jamais. Je ne peux pas reproduire la voix, mais l'intonation.
C'est difficile.
Donc, il y avait une figure de sévérité, sévérité juvénile aussi, et de dureté pamphlétaire. D'ailleurs, d'un certain point de vue, la querelle avec Raymond Picard repose. Raymond Picard est quelqu'un qui connaissait Roland Barthes, Raymond Picard a polémiqué contre Roland Barthes en ayant en tête le Roland Barthes des premières années. Parce que le texte qui a motivé le sur Racine n'est pas très polémique en vérité. Enfin, il dit des choses pas très aimables, mais enfin, il nomme pratiquement personne. Donc Raymond Picard a en quelque sorte porté le débat, lui a donné un ton très aigre, parce qu'en fait, il avait en tête le Roland Barthes d'avant. Donc effectivement, la douceur de Roland Barthes est quelque chose qui lui est arrivé, qui est advenu. Oui. N'était pas
une sorte de conquête un petit peu alors peut-être.
Je pense que c'est une conquête. Oui. Je pense que je répète la période de la sémiologie qui est aussi une période de la fin de la polémique. Puisque la guerre d'Algérie étant terminée, après tout, il y a eu un film qui s'appelait « La guerre est finie », ce n'était pas la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Espagne, mais le titre disait quelque chose sur la période. Ça voulait dire aussi que la polémique quand vous dites qu'il n'y a de polémique qu'à droite, excusez-moi de vous reprendre, mais parce que j'ai quelques mois plus que vous, à l'époque où Jean-Paul Sartre écrivait, excusez-moi, la polémique était de son côté extrêmement dure, y compris contre des à l'égard de gens
Mauriac.
Dieu n'est pas un artiste, Monsieur François Mauriac non plus. Mmh. Pas considéré que ce soit. Et puis il y a la lettre à Camus, qui est une lettre d'une dureté extrême. Donc je pense qu'il y a eu la période de la guerre de l'Algérie, qui a été une période où la polémique a existé et où elle a été, où ça a été une polémique exercée par les méprisants, par le mépris des hommes de gauche au sens large à l'égard de ceux qui étaient pour l'Algérie française. Et le schéma s'est complètement cassé quand De Gaulle est arrivé, parce que De Gaulle ne pouvait pas être méprisé comme, mettons, Guy Mollet. Et donc le style, on voit très bien, je reprends ce volume des situations, les textes de Sartre sur De Gaulle cherchent à trouver une faille par où la moquerie pourrait arriver, par où la polémique, et ils n'y arrivent pas. Il y a quelque chose qui sent bien que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va écrire ce texte de renoncement qui est la préface à Aden Arabi, où en gros il dit la gauche est un grand cadavre à la renverse. Donc je me suis fait, moi, Sartre, le serviteur d'un cadavre.
Alors, excusez-moi, cette fin de soirée, moi j'ai une question de Béotien. Et que dire du Barthes qu'on pourrait dire tardif, celui des fragments d'un discours amoureux ?
Je ne vois pas en quoi ça... si vous voulez, je pourrais reprendre, mais je ne vais pas reprendre mon exposé. Si vous voulez, mon schéma abstrait, c'est que on peut reconnaître chez Barthes des fonctions du geste du moraliste, et ces fonctions sont exercées de manière différente au fil des périodes. Et donc, dans le fragment du discours amoureux, vous avez, c'est la première fonction que j'évoque, qui est celle de l'ébranlement des apparences, c'est le titre même qui indique, d'un certain point de vue, l'amour est le sujet de la littérature française, de la littérature romanesque française. Le roman français ne parle que de ça. Et ce que Barthes vise, c'est ce qu'il considère comme étant devenu une habitude, qui est le discours romanesque sur l'amour. Pas le contenu, l'existence de ce discours. Et il va le fragmenter. C'est ça que j'appelle la fonction d'ébranlement. Et après, bon, on pourrait entrer dans le détail. Ce que j'appelle la délimitation de l'habituel, c'est en l'occurrence précisément le discours amoureux comme ritournelle du roman, des récits. À mon avis, c'est d'ores et déjà l'annonce, l'amorce de ce qu'il va dire sur le roman après qu'il prend par le biais de donc, si vous voulez, les fonctions en ethnologie, on définit des fonctions au sein des récits, les fonctions du discours moraliste, du propos moraliste sont là, du début jusqu'à la fin, mais leur substance est différente.
Donc,
je retrouve les fonctions dans le, vraiment le discours amoureux, comme je les retrouve dans, dans le plaisir du texte, mais avec à chaque fois un décrochement.
Autre question peut-être ? Eh bien, dans ce cas-là, je vais remercier donc Jean-Claude Milner pour sa parole brillante. Je remercie également Thomas Clerc pour avoir relevé avec brio le défi de parler après Jean-Claude Milner. Je remercie également notre partenaire, les Lisières. Et il y a dans le hall un certain nombre d'ouvrages, quelques-uns, de Jean-Claude Milner d'une part et de Thomas Clerc d'autre part.